Avant d'écouter un nouvel épisode de Prolongation, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique en ligne de Calcio EPP. C'est sur www.calcioepp.shop. Et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien et européen. Milan, la Juve, l'Inter, Roma, Napoli, Real, Barça, Bayern, Manchester United, plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, des sélections nationales et même beaucoup de vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast Prolongation et c'est à retrouver sur calcioepp.shop.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour décrypter leur métier et découvrir ce qui les fait avancer au quotidien. Durant environ une heure, nous discutons de multiples sujets et de leur métier pour mieux le décoder. L'idée est très simple, donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Des entraîneurs, des préparateurs physiques, des formateurs, des recruteurs, des agents, des joueurs et beaucoup d'autres encore passeront derrière mon micro dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, je reçois Gladys Diblin, nutritionniste du sport, ayant notamment collaboré avec l'Impact de Montréal et l'Olympique Lyonnais. Elle est aujourd'hui en charge du suivi de plusieurs athlètes. Nous sommes revenus sur son parcours, sur l'influence de la nutrition dans la performance des footballeurs et sur l'importance de l'entourage des joueurs pour une alimentation de qualité. Nous avons également évoqué quelques bonnes pratiques avant et après match, le rôle clé d'une bonne hydratation, ainsi que la tendance des régimes végétaliens dans le sport. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cette conversation avec Gladys Diblin. Bonjour Gladys Diblin et bienvenue dans le podcast Prolongation.
Bonjour Johan, merci pour l'invitation.
Alors dans ce podcast Gladys, on commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué? Alors ça peut être par plusieurs facteurs, son scénario, son résultat, une émotion particulière que tu as pu ressentir devant la rencontre, une sorte de Madeleine de Proust à laquelle tu repenses de temps en temps.
Alors pour moi le match le plus mémorable a été un match que j'ai vu pendant mon expérience à l'Impact de Montréal le 28 mai 2016 ouais. Contre LA Galaxy. Alors, pour resituer un petit peu le contexte, même si depuis petite j'ai été habituée à regarder des matchs de football, à aimer le sport, etc., quand je suis arrivée à Montréal, j'ai été pour la première fois en totale immersion dans le monde du football professionnel, que je connaissais finalement pas. Et j'ai presque jamais été voir de match en réel. Enfin, c'était vraiment une nouvelle porte qui s'ouvrait à moi à ce moment-là. Et donc nous étions à domicile au Stade Saputo qui contient un petit peu plus de 20 000 places. Et c'est un beau stade aux couleurs de l'Impact qui a une particularité. C'est que depuis 2015, l'équipe de Montréal a une nouvelle tradition qui est une énorme cloche en fonte qui est située dans le virage du stade devant les ultras. Et c'est vrai que ça crée quelque chose en plus qui est spécifique à Montréal. Et donc, ce soir-là, donc, l'atmosphère, elle était vraiment très positive, particulièrement positive. C'était un beau week-end, il faisait chaud, il faisait beau, le ciel était magnifique, on avait un coucher de soleil magnifique. Et puis donc, Elé ouvre le score, 8e minute, grâce à Giovanni Dos Santos. Et puis, on débute donc un peu mal le match, mais on arrive finalement quand même à égaliser. On se retrouve à la 58e minute 2-2. Et puis là, c'est vrai que même si la possession de balle était surtout pour Los Angeles, le match restait quand même très serré car Montréal arrivait quand même à créer des occasions et à marquer. Et puis, le public montréalais était vraiment derrière les joueurs. C'est vraiment un public qui est fidèle à leur équipe. Et ça, je trouvais ça vraiment super, parce il y a toujours eu du soutien de la part du public. Je le trouvais très bienveillant et ça démontrait aussi la mentalité positive des Québécois. Et donc, on commence à arriver sur les dernières minutes de match, très serré. Et puis, c'est vrai que d'habitude, les gens commencent un petit peu à partir avant la fin. Et là, ce soir-là, personne n'a bougé. Tout le monde est resté assis, concentré, en train de crier, en train de soutenir les joueurs, d'applaudir les joueurs jusqu'à la fin. Comme si, on va dire, que tout le monde avait l'espoir qu'il allait se passer quelque chose avant la fin du match. Et là, 94e minute du match, dernière action de la rencontre, notre fameux Didier Drogba, marque avec un coup franc et on gagne le match. Et là, ça a été vraiment l'explosion parce qu'il y a eu en fait une telle synergie entre les joueurs, entre le déroulement du match, la victoire et le public en même temps. Ça a juste été vraiment incroyable. Je pense que j'ai rarement vécu une ambiance pareille dans une énergie commune, c'était vraiment de bon de vivre ça.
Mais c'est marrant que tu dis ça parce qu'en fait le championnat nord-américain, la MLS, en fait, a la réputation d'être pour beaucoup en Europe, hein, un petit championnat où on sait très bien qu'aux États-Unis, c'est plus le hockey sur glace, c'est plus le football
Exact.
américain, c'est plus la NBA. Et donc les gens se disent bon, l'ambiance doit pas être terrible, etc. Mais en fait, il y a des supers ambiances aux États-Unis. On a Atlanta depuis peu qui a un super stade hyper moderne avec une super ambiance. Il y a Portland où il y a une super ambiance, Montréal où il y a une super ambiance. Donc en fait, c'est un championnat. En fait, c'est un sport qui est en train de vraiment monter de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a de plus en plus de pratiquants. Quand tu te balades là-bas, on voit beaucoup plus de gens qui jouent au soccer dans les parcs. Donc au
Tout à
football,
fait.
que même au football américain, se faire des longues passes, etc. Et c'est vrai que Montréal a un peu une culture européenne quand même, puisqu'il y a il y a une forte émigration quand même au Canada de plusieurs pays européens, notamment italiens, français, etc. Et
Exact,
c'est
oui.
vrai que ça a été un petit peu précurseur par rapport à d'autres villes américaines, mais c'est vrai que il y a quelque chose qui se passe en fait là-bas qui fait qu'on peut être amené à voir un championnat de plus en plus intéressant à suivre en tout cas, et de plus en plus divertissant avec de plus en plus de monde dans les stades. Tu parlais
Tout à
justement de
fait.
ton rapport au foot, tu disais j'ai toujours un peu suivi le foot, mais sans aller forcément beaucoup dans les stades. Quel était ton rapport on va dire au sport de manière générale quand tu étais petite entre guillemets ou adolescente, et au football, au sport en général et au football, quel était ton rapport à ce sport?
Alors, c'est vrai que moi, me concernant personnellement, je n'ai pas fait de sport étant enfant et adolescente parce que j'ai eu des soucis de santé. Et en fait, ça m'a encore plus attirée. C'est-à-dire que ben, j'étais encore plus derrière l'écran à regarder que ce soit même les matchs de football, mais même le sport en général. Et puis, c'est vrai que j'ai une famille aussi qui aime particulièrement le football, avec beaucoup de cousins qui regardent, etc. Et donc, du coup, j'étais toujours baignée avec eux quand il y avait des championnats, etc. On était derrière la télé. Et c'est pour ça, on va dire, que j'ai commencé vraiment à aimer. Et puis ensuite, j'ai fait à mon tour du sport en sortant de mon adolescence. Et là, révélation, je savais que c'était un domaine dans lequel j'avais envie de découvrir et d'évoluer.
D'accord, c'est ça qui t'a fait du coup basculer parce que aujourd'hui t'es nutritionniste du sport. On peut être nutritionniste de manière générale, j'ai envie de dire sans spécialisation dans le sport, c'est-à-dire conseiller des gens de la vie de tous les jours, de la société civile, sur l'alimentation, la nutrition, etc., la santé de manière générale. Et puis il y a se spécialiser vraiment dans le sport pour le coup. C'est vraiment ta découverte du sport qui t'a emmené en fait dans ce parcours-là de se dédier, de se spécialiser dans la nutrition du sport.
Alors, ça a été ça, et puis également, c'est cette mentalité, cet objectif qui est en fait un petit peu différent des personnes qui viennent nous voir pour des problèmes de poids, par exemple, ça reste un exemple, mais c'était vraiment une spécificité dans le sens où le sportif a besoin de résultats, amène son corps dans les limites, et donc il doit avoir une alimentation particulière. Et c'est vraiment ouais, voilà, cette mentalité-là qui m'a fait envie d'aller plus loin et de pouvoir les aider grâce à l'alimentation.
Alors, au cours de tes études et maintenant comme indépendante, tu as pu collaborer donc avec plusieurs clubs, le FC Metz, l'Impact Montréal, tu nous en as parlé, l'Olympique Lyonnais aussi avec la réserve en CFA.
Exact.
Le sport est un, le football, pardon, est un univers très masculin. Comment s'est déroulé ton accueil et ton adaptation dans cet univers, pour le coup, où maintenant ça commence un peu à s'ouvrir, les mentalités s'ouvrent aussi, peut-être un
Oui.
peu plus de facilité, pour les femmes de rentrer dans cet univers-là. Comment ça s'est passé pour toi?
Alors, c'est vrai que quand je suis arrivée dans le monde du sport, et donc bah, notamment dans le monde du football, je suis arrivée dans un milieu assez fermé. Je ne m'en rendais pas compte auparavant jusqu'à mon arrivée. Et donc, qui se compose majoritairement d'hommes. Et donc, c'est vrai qu'il y a deux challenges qui se sont présentés à moi. Bah, le premier, leur faire comprendre la place et l'importance de l'alimentation et l'hygiène de vie dans leur pratique sportive. Et évidemment, le deuxième challenge, c'était faire passer ce message tout en trouvant ma propre place de femme à travers ce monde très masculin. Et donc, c'est vrai que, sans te mentir, la première expérience que j'ai eue, qui a été au FC Metz, où je me suis occupée de l'équipe U19 féminine et masculine pendant un mois. C'était un stage. Et là, c'est vrai que quand je suis arrivée pour la première fois en conférence devant le public masculin, en plus un très jeune public, ça a été compliqué pour moi parce que on ne m'écoutait pas vraiment. On se disait, mais c'est qui cette petite minette là qui vient nous faire un discours sur sa nutrition? Ça a été vraiment compliqué. Et là, j'ai eu une révélation en me disant, OK, si c'est réellement le domaine dans lequel tu veux travailler, il va falloir que tu te positionnes et que tu trouves ta place pour qu'on te prenne réellement pour une professionnelle et ben, surtout pour qu'on écoute tes propos. Et donc, j'ai travaillé sur ça et j'ai
Et
eu la
comment t'as
chance
travaillé, je me
de.
permets de te couper, comment t'as travaillé
Bien
sur ça
sûr.
du coup?
Alors, comment j'ai travaillé sur ça? Déjà, bon, bah, alors évidemment, en préparant plus mes conférences, etc., en travaillant aussi sur moi, sur ma confiance en moi, comment je parle, comment je m'exprime, etc. Et puis aussi grâce, de toute façon, je pense que les meilleures expériences sont faites dans la pratique, hein, et grâce à mon stage de fin d'études à Montréal, où je suis restée plusieurs mois, où là, j'ai fait énormément de conférences et de cours. Et là, j'ai beaucoup travaillé sur ça là-dessus avec les jeunes directement, et ça s'est très 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 bien passé.
Et quand tu parlais de difficultés à te prendre au sérieux au départ, c'était quoi? C'était plutôt le public footballeur, les jeunes footballeurs, ou c'était aussi l'encadrement, éventuellement staff technique, ou c'était vraiment plutôt les jeunes joueurs qui avaient du mal à entendre ton propos quand tu venais leur faire des cours ou des conférences?
Non, le staff, je dirais, ça allait. Non, le staff, ça allait. C'était surtout les jeunes joueurs. Parce que, bon, c'est surtout les jeunes. Bon, après, on sait que, bon, au niveau maturité, bon, bah, quand on est jeune, voilà, on est peut-être un peu moins sérieux. Ce que je peux comprendre, hein, sans problème. Mais c'est vrai que c'était surtout les joueurs qui avaient du mal à rester professionnels face à moi et qui partaient un peu dans tous les sens, quoi.
Alors, le hors-terrain prend une place de plus en plus importante dans la carrière d'un sportif et donc d'un footballeur. On va évidemment parler et beaucoup parler de nutrition dans ce podcast, dans cet épisode, mais aussi on peut évoquer la récupération, le sommeil, la psychologie et pas mal d'autres domaines qui sont loin des pelouses mais qui ont une influence directe aussi sur les performances. Toi, tu as travaillé donc au Canada, tu collabores aussi avec des sportifs à l'étranger. Comment est-ce que tu juges le degré d'importance accordé à tout ce travail hors terrain, donc toi pour le coup la nutrition, mais ça peut être aussi d'autres domaines comme je viens de le dire, en France. Est-ce que tu as l'impression qu'on est en avance, on est au niveau, on est un petit peu en retard par rapport à tes expériences à l'étranger?
Alors, par rapport à mes expériences, j'ai vu qu'on était même très en retard en France, notamment quand je suis arrivée à Montréal, où j'ai vu que simplement les jeunes étaient directement sensibilisés à ça, même si on a tendance à penser que, bon, bah, par exemple, en Amérique du Nord, on a une facilité à manger un petit peu n'importe quoi, des produits industriels et tout, alors qu'en France, on a quand même une bonne histoire sur la gastronomie, etc. Et c'est vrai qu'en fait, non, par rapport au sport, j'ai clairement vu très rapidement qu'en France, on était en retard par rapport à ça, au niveau des clubs, au niveau de l'information passée. C'est vrai que moi, quand je suis arrivée dans les centres de formation, bah, par exemple à l'OL ou encore au FC Metz, ce qui était encore plus difficile, c'était de dire aux jeunes d'expliquer l'importance de l'alimentation alors qu'ils n'en avaient jamais entendu parler. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez... Bon, alors après, je dis, ça prend quand même de l'ampleur, c'est sur une bonne voie, mais il y a encore du travail à faire.
Est-ce que tu as l'impression que c'est lié à notre différence culturelle au niveau du sport? Par exemple, tu parlais de l'Amérique du Nord, où on a tout de suite un esprit de compétition, de professionnalisme, où en France, on a plus la notion de plaisir quand on débute dans un sport, on le fait surtout par plaisir. Est-ce que tu as l'impression que cette différence culturelle et d'état d'esprit peut jouer sur le fait de sensibiliser ou non les plus jeunes au bienfait d'une bonne nutrition? Par exemple, à Montréal, si on part tout de suite du principe qu'il faut être performant, qu'on fait tout ça pas seulement pour le plaisir, mais que derrière il y a un vrai objectif, forcément on va se donner les moyens de tout contrôler pour arriver à cet objectif. Et on n'a peut-être pas tout à fait cette vision-là, en tout cas pas partout en France.
Oui, c'est vrai que ça peut être quelque chose qui rentre en compte largement aussi dans le processus d'alimentation. Mais je dirais quand même que je pense aussi que c'est simplement on se repose un petit peu sur ce qui a été fait auparavant et sans réellement trouver de la nouveauté et essayer vraiment de perfectionner un maximum tous les enjeux que l'on peut retrouver pour atteindre de hautes performances. Parce que bon, quand on prend par exemple quand même les championnats que l'on a en Europe et les championnats que l'on retrouve par exemple au Canada ou en Amérique de façon générale, on a quand même un niveau qui est différent. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est ça peut en faire partie, mais pour moi c'est quand même pas une
Ça explique pas
excuse.
tout.
Voilà, exactement. Exactement.
La nutrition, elle est intimement liée donc du coup à la performance. On vient d'en
Oui.
parler un petit peu. Il y a deux volets en fait là-dedans. Il y a l'importance à l'instant T pour être tout simplement
Oui.
performant le week-end, la semaine, etc. Mais c'est aussi capital dans, disons, dans l'optique de la longévité d'une carrière. En gros, tu me dis si t'es d'accord, mais il faut voir ça un peu comme c'est le carburant qu'on met dans son corps et ça dépend aussi de comment on entretient son corps. Et du coup, la longévité va se jouer beaucoup, à la fois évidemment sur l'hygiène de vie, dont la nutrition fait partie.
Tout à fait. C'est vrai que l'alimentation est vraiment d'une importance fondamentale, déjà pour tout individu de façon générale, mais encore plus pour les sportifs, parce qu'ils ont quand même des besoins accrus en énergie, en nutriments. Et elle doit être vraiment tout aussi importante que l'hygiène de vie de façon générale, qu'un entraînement sérieux et régulier, qu'une bonne préparation mentale. Vraiment, elle doit faire partie d'un tout.
Et on entend souvent justement les footballeurs qui approchent la trentaine, on les
Oui.
entend expliquer avoir pris conscience tardivement de l'importance d'une bonne alimentation. C'est marrant parce qu'en préparant un peu l'entretien, quelques jours avant, j'ai vu l'interview de Victorino Hilton. Bon, il avait déjà parlé de ça un peu
Oui.
avant, hein, mais il avait expliqué qu'il avait arrêté la nourriture fast-food, les sodas, à peu près à 30 ans, 29-30 ans. Et aujourd'hui, il a 42-43 ans et il joue toujours en Ligue 1. Est-ce que toi, quand tu parles du coup à des jeunes ou à des moins jeunes, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une différence d'approche et d'intérêt? En gros, les jeunes joueurs, c'est un peu plus difficile de les sensibiliser parce que ils se projettent pas forcément encore jusque-là, alors que les trentenaires, par exemple, ou ceux qui approchent la trentaine, ou qui même l'ont dépassé, eux sont vraiment dedans en se disant, si je veux allonger un petit peu ma carrière, il faut vraiment que je fasse attention à tout.
C'est tout à fait ça. Vraiment tout à fait ça. C'est vrai que moi, quand j'ai été donc à l'Impact de Montréal, le premier sportif que j'ai suivi là-bas était rentré un peu en fin de carrière et il était constamment blessé. Et puis donc on a fait une prise en charge nutritionnelle qui a énormément changé son état parce que bon bah ses blessures c'était du passé clairement. Et il m'a confié, il m'a dit waouh, c'est incroyable parce que maintenant, aujourd'hui, je rentre en fin de carrière, mais si j'avais su ça quand je commençais à rentrer dans la vie sportive et que j'étais plus jeune, j'aurais eu un tout autre chemin de carrière et de vie sportive. Donc, c'est vrai que oui, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est compliqué d'être pris, on va dire, en conscience par les jeunes. Mais il faut réellement, réellement que ils le sachent, que les informations se répandent pour justement qu'ils puissent avoir de hautes performances le plus tôt possible et ben, on va dire le plus longtemps aussi possible.
Alors on
Parce que
part.
comme tu le dis,
Oui,
oui,
vas-y, je t'en
pardon.
prie, je t'en prie.
C'est comme tu le dis, l'alimentation est vraiment le carburant du corps et des muscles qui va être utilisé autant dans un effort sportif pour apporter de l'énergie à l'instant T, mais aussi de façon quotidienne ben, pour bien récupérer, pour bien adapter son corps aux efforts, pour diminuer les risques de blessures, améliorer ses capacités cognitives. Enfin, il y a vraiment énormément de raisons sur lesquelles on doit avoir une bonne alimentation. Au quotidien, quand on est sportif.
Alors, on parlait de la différence entre les jeunes et les moins jeunes. Dans ton travail, tu es aussi obligé de personnaliser l'approche nutritionnelle en fonction des individus. Donc, ça joue sur l'âge, par exemple, évidemment. C'est un critère important. Il y a le critère du métabolisme. Certains brûlent plus facilement les calories que d'autres. Il y a des éventuelles allergies alimentaires également, qui se développent de plus en plus, malheureusement aussi, dans la population de manière générale, mais aussi chez les sportifs. Est-ce que tu peux évoquer ton fonctionnement quand un footballeur vient te voir ou quand tu travailles comme consultante auprès de clubs? Comment tu inities le rapport avec l'athlète d'un point de vue nutritionnel? Est-ce qu'il y a un bilan au départ sur comment son corps réagit à la manière de s'alimenter? Est-ce qu'il y a des tests? Comment ça se passe?
Alors, quand il y a une prise en charge individuelle, bien sûr, il y a tout un bilan et une consultation nutritionnelle qui permettent ben, d'évaluer tout ce qui constitue le sportif. Alors, même si certains conseils sont valables pour plusieurs sportifs, soit par rapport au sport pratiqué ou par rapport au, je sais pas, au goût, aux habitudes de vie, etc. La notion la plus importante pour répondre parfaitement aux besoins de la personne concernée, c'est vraiment l'adaptation. Et aujourd'hui, on voit que chaque personne est unique, chaque sportif est unique, même si on a énormément de footballeurs, chaque footballeur va être unique de par ben, déjà son âge, son caractère, son sexe, ses goûts, ses habitudes de vie, ses modes de vie, etc. Mais aussi par sa physiologie, hein, que comme tu l'as dit, son métabolisme, sa santé, le fonctionnement de son organisme qui peut être différent d'un autre, et puis son sport, le nombre d'heures de sport dans la semaine, leur nature, leur intensité. Parce que c'est vrai que des fois, on a des sportifs qui vont s'entraîner qu'avec le club. Il y a des sportifs qui vont prendre aussi un coach personnel à la maison et qui vont faire encore plus d'heures. Vraiment, toutes ces différentes caractéristiques doivent être prises en compte pour justement s'adapter parfaitement aux sportifs. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte aussi grâce à la multitude d'informations qui sont véhiculées à travers tous les médias présents, que ce soit Internet, livres, émissions, réseaux sociaux, etc., qu'on retrouve au final des informations qui sont données pour tous, alors que même si c'est un bon départ de s'intéresser à l'alimentation, encore une fois, le fait d'avoir une alimentation adaptée totalement à soi, est la plus bénéfique possible.
On pense souvent à l'alimentation avec en vue la dépense énergétique liée à un match, mais tu en as parlé tout à l'heure, bien se nourrir, c'est également important pour favoriser la récupération. Est-ce que
Tout
tu
à
peux
fait.
évoquer quelques, on va appeler ça les best practices et conseils que tu donnes aux joueurs? On peut faire ça par étapes, par exemple en avant-match, pour bien préparer sa dépense énergétique. Comment tu conseilles les joueurs? Quel type d'aliments, par exemple? On peut parler de type d'aliments il faut consommer, combien de temps avant le match, tout ce genre de choses-là.
Alors, c'est vrai qu'avant le match, il y a une importance particulière parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Notre corps va avoir des systèmes qui vont utiliser énormément d'énergie, donc qui sont par exemple la digestion. La digestion est une des choses qui utilise le plus d'énergie. On a aussi l'effort. Et donc, c'est vrai qu'on ne doit pas mélanger ces différentes choses pour garder, on va dire, un maximum d'énergie. Alors, c'est-à-dire que je m'explique. Par exemple, quand on va faire un effort de forte intensité, il y a vraiment une importance particulière sur le choix et la digestibilité des aliments que l'on va consommer avant. Il faut que l'on privilégie des aliments que l'on arrive bien à digérer, donc qui ne mettent pas trop de temps. Donc on va essayer d'éviter, ben, par exemple, tous les gros plats riches en graisse saturée, par exemple, tout ce qui est fast-food, plateau de fromage, etc. Et tous les aliments qui sont aussi très riches en fibres, qui vont être aussi difficilement digérés par l'organisme, comme par exemple les choux, les épinards, enfin des légumes qui ont, on va dire, beaucoup de fibres. Une autre chose très essentielle aussi avant le match, c'est de bien respecter son temps de digestion avant le début de l'effort pour justement maximiser un maximum l'énergie. Donc, par exemple, pour mes joueurs, pour un plat, on va dire, normal, pour un repas, on essaye de ne pas commencer l'effort 2 h 30 à 3 h après le début du repas.
D'accord.
Par exemple, on choisit également des aliments de qualité, apportant ben, par exemple un peu de protéines, pas trop, pour prévenir du futur catabolisme musculaire pendant et après l'effort, mais aussi des aliments qui sont riches en glucides de qualité, avec des index glycémiques de moyen à bas, et une portion de légumes aussi facilement, encore une fois, digestibles, apportant vitamines et minéraux. Et puis bien évidemment, même si le repas du match est très important, un match se prépare au quotidien, c'est-à-dire que tous les jours avant aussi sont très importants. Donc il faut vraiment penser à ça.
En fait, c'est pas simplement avant et après le match, on fait attention à ce qu'on mange, c'est toute la semaine, pendant tous les mois, toute l'année, clairement, où il faut être performant et où on a un soin particulier sur la manière de s'alimenter, toujours dans le but, l'objectif d'être performant.
C'est ce que j'essaye d'expliquer à mes joueurs, c'est que vraiment, quand on choisit de faire un métier en utilisant son corps au quotidien et de le pousser aussi dans les limites et dans ses retranchements, il est ben, tout simplement fondamental de prendre en compte ben, le carburant qu'on va lui apporter. Et ça, c'est vraiment pas que sur un instant T, bien que l'instant T soit aussi très important, mais c'est vraiment au quotidien et c'est ça aussi qui va faire la différence. Parce qu'aujourd'hui, on a plein de sportifs, on a plein de footballeurs, mais on va dire pour ceux qui sortent aussi du lot et qui vont loin et longtemps, c'est ceux aussi qui font attention à leur alimentation, oui, au quotidien.
En après-match, cette fois, je me suis renseigné évidemment avant de faire cet entretien et en le préparant un petit peu, j'ai vu beaucoup de nutritionnistes parler de la bonne pizza d'après-match. Alors la pizza, parce qu'elle est riche en glucides et que du coup, après une telle dépense énergétique, il faut compenser ce que les joueurs ont brûlé en sucre notamment. Donc tu confirmes que la
Oui.
pizza est un super aliment d'après-rencontre, entre guillemets.
Alors, même si la pizza apporte beaucoup de glucides et aussi beaucoup de graisse, hein, on va pas dire le contraire, et de sel aussi, non, moi je ne suis pas de cet avis. En
D'accord.
fait, je pense que la pizza d'après-match est fabuleuse dans la récupération mentale. C'est-à-dire que bon, bah, après un effort, on a aussi besoin de récupérer mentalement, et le fait de se faire plaisir ben, permet aussi une bonne récupération. Donc ça, je pense que c'est essentiel, c'est vrai. Mais je pense qu'en termes d'alimentation et d'énergie qualitative, on peut largement mieux faire, hein. Justement, en fait, après, en récupération, après un effort, le corps aura des besoins vraiment supérieurs. C'est-à-dire que là, il sera vraiment à l'affût de ce qu'on va lui apporter parce qu'il aura besoin de récupérer de l'effort qu'il vient de réaliser. Et je pense qu'il est quand même, qu'il pourrait en tout cas être plus intelligent d'adapter vraiment son alimentation à ce moment-là en apportant, voilà, encore une fois, une alimentation et une énergie qualitative avec des aliments et des nutriments de qualité. Donc, par exemple, apporter de bonnes graisses avec des protéines, des vitamines, des minéraux, des antioxydants aussi pour permettre à l'organisme de lutter contre l'acidité qui vient d'être produite. Et puis des glucides, bien sûr, parce que bien évidemment, on doit aussi refaire son stock d'énergie. Mais en tout cas, la pizza, pour moi, peut être à la limite le lendemain.
D'accord. Et quel type du coup d'aliments ou de plats tu conseilles en après-match, après l'effort pour le coup?
Alors, après l'effort, ça va être surtout un plat donc de qualité. Donc, c'est-à-dire avec, par exemple, je donne bien évidemment des exemples. On peut retrouver une escalope, par exemple, de dinde, de poulet. On peut retrouver aussi un poisson gras qui va apporter des bonnes graisses. On peut retrouver des œufs en faisant attention d'avoir un jaune cru et un blanc cuit pour avoir un maximum de nutriments de qualité. On peut retrouver aussi une portion de légumes et de fruits. Alors, encore une fois, quand je dis de qualité, pour moi, c'est parce qu'il y a toujours, en fait, dans l'alimentation, on peut avoir tous les aliments que l'on veut, mais la qualité prime. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir des aliments, ben, par exemple, de bonne qualité, par exemple, biologique, ou en tout cas, qui ne viennent pas de l'autre bout de la planète.
Ou
Donc,
de pays qui ont une forte consommation de pesticides, par exemple.
par exemple, évidemment, oui. Donc ça, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment très important. Et puis, on aura aussi des glucides, donc des glucides qui peuvent être divers. On peut avoir un bon riz basmati, des pâtes semi-complètes, du quinoa. On peut avoir des légumineuses, comme par exemple des haricots blancs, des lentilles, des pois chiches, des pois cassés, enfin. Ça peut être vraiment différent pour chacun. Ça va dépendre aussi de leur goût, leur habitude. Mais en tout cas, aujourd'hui, oui, il est tout à fait possible d'avoir des meilleures choses que la pizza post-match.
Après, il y a peut-être un souci logistique, par exemple, pour les rencontres à l'extérieur, quand les matchs se finissent tardivement,
Oui.
par exemple à 23h, et que derrière il faut reprendre l'avion pour rentrer à son domicile, entre guillemets, rentrer dans sa ville, ensuite reprendre la voiture pour aller chez soi. Du coup, la pizza, c'est peut-être un peu la solution de facilité. On se fait livrer des pizzas et ça ne nécessite pas une très grande logistique, là où par exemple faire cuire des aliments bah, nécessite de l'appareillage, nécessite du personnel, etc. Ou après il y a l'autre solution qui pourrait être de choisir, de préparer auparavant, de conditionner d'une certaine manière et de donner des sortes de bagues en fait aux joueurs avec peut-être tu parlais une salade de quinoa avec une escalope froide avec quelques féculents ou quelques légumes et voilà c'est peut-être aussi une question logistique qui est difficile à gérer parfois quand ils jouent le mercredi soir en Ligue des Champions qui finissent à 23h et qui rejouent le samedi donc il faut rentrer vite c'est vrai qu'il y a tout un univers qui est aussi peut-être un peu complexe à mettre en pratique toujours et c'est pour ça sans doute aussi peut-être que des nutritionnistes dans des clubs se disent bah, de temps en temps allez on fait la solution facile de la pizza ça va leur faire plaisir et puis nous ça nous facilite aussi entre guillemets un petit peu la tâche.
Tout à fait, bien sûr, tout à fait. Je comprends parfaitement le fait que ce soit pratique, parce que c'est vrai qu'en plus, bon, ben, quand on a des championnats où on enchaîne les matchs tous les 3 jours, etc., il peut être compliqué de mettre des choses comme celle-ci en place. Mais c'est vrai que moi, je suis dans une optique toujours à améliorer le moindre détail. Et c'est vrai que si on a réellement la priorité sur la nutrition, parce que c'est vrai que c'est souvent pas le cas, malheureusement. Mais si on a la priorité sur la nutrition et qu'on se donne les moyens pour, tout est possible.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donc pour moi, c'est possible quand même de bien manger, même si c'est vrai, je le conçois, ça peut être moins pratique.
Alors, tu parlais de mettre la priorité sur la nutrition dans un club, et lorsqu'on s'est appelé pour préparer cet entretien, tu m'as parlé de ton expérience à l'OL avec la CFA en soulignant du coup l'importance de Chris, qui était alors l'entraîneur de la réserve, dans ton arrivée comme consultante sur tout l'aspect nutrition pour l'équipe réserve.
Oui, alors c'est exact. Donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler aux côtés de Chris donc pour l'équipe de CFA à l'OL. Alors c'est vrai que Chris, en tant qu'ancien joueur professionnel, il connaissait quand même bien l'importance de la nutrition et de ses bienfaits sur la santé et les bénéfices aussi que cela apporte aux sportifs. Et c'est vrai que c'est pour cela qu'en tant qu'entraîneur, il était vraiment très demandeur et impliqué pour ses joueurs, justement pour que ces joueurs bénéficient aussi de conseils dans tous les domaines pour progresser et optimiser un maximum leur performance. Donc du coup, Chris m'a demandé surtout de bien insister sur l'importance de la nutrition, parce que c'est vrai que même si l'OL est un excellent centre de formation en France, malheureusement encore la nutrition est encore un domaine où il y a du retard et où les joueurs n'ont très très peu entendu parler. Donc du coup, il était vraiment demandeur à ce sujet, et c'est pour ça qu'on a pu mettre en place plein de choses lors de mon année à travailler avec lui. J'ai fait tout d'abord des cours et des conférences sur la nutrition pour justement sensibiliser un maximum et le staff ainsi que les joueurs sur comment avoir une bonne alimentation et comment l'adapter aussi quand on est un sportif et qu'on va devenir sûrement un sportif de haut niveau. Et puis, on a aussi pris en charge l'alimentation de façon collective, à domicile, donc avant et après les matchs, là où il était possible d'encadrer et de contrôler la nutrition des joueurs, mais aussi à l'extérieur. Donc, c'est vrai que ça a pu aussi apporter quelque chose pour les sportifs.
Mais alors comment ça se matérialise ça, cette idée de contrôler à domicile et à l'extérieur la manière de s'alimenter chez les joueurs?
Alors c'est vrai que comme les joueurs ont quand même, ils ont déjà un âge où ils sortent énormément, etc. Donc ils ont tendance à manger un peu tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que le fait qu'ils puissent manger, par exemple, avant les matchs et après les matchs avec le club, c'était aussi un moyen de contrôler l'alimentation à cette période pour ne pas faire n'importe quoi. Donc c'est vrai que par exemple, ils pouvaient manger au club directement avant le match, donc au self. Et c'était une bonne occasion de leur faire prendre conscience qu'un repas avant match était fondamental pour aussi bien réussir le match, par exemple.
Et comment ils ont réagi du coup à tout cette masse de conseils que tu leur as donné, parce que c'était évidemment un peu nouveau pour eux. Comment ils ont digéré, pour reprendre un terme lié à l'alimentation, comment ils ont digéré la masse d'informations que tu leur as donné, et puis ce côté un petit peu contrainte, forcément, de ne pas pouvoir manger ce qu'on veut au moment où on veut.
Eh bien, écoute, c'est marrant parce que, tu vois, j'ai une petite anecdote par rapport à ça, justement. C'est la deuxième conférence que je fais auprès de l'équipe de CFA. C'était un jeudi en post-entraînement. Je ne sais plus, il devait être, c'était en début d'après-midi, 13h, 13h30, je ne sais plus. Et puis, j'ai les joueurs qui sont venus assister à la conférence avec des pizzas à la main. Donc j'étais vraiment j'étais d'un côté surprise et ça m'a fait quand même beaucoup rire de voir justement que une conférence nutrition, ils n'avaient pas du tout la notion de savoir qu'est-ce qui était bien ou pas. Donc bien évidemment, j'allais pas les réprimander non plus. J'ai rigolé avec eux par rapport à ça. Et puis je leur ai expliqué justement que il y avait des choses meilleures à digérer après un entraînement. Et c'est vrai qu'au début ils étaient un peu comme tous les jeunes, hein, de toute façon. Ils étaient un peu sceptiques, voilà, qu'est-ce qu'elle va nous dire, qu'est-ce qu'on va devoir manger, etc. Et puis, au fur et à mesure de la conférence et du temps, ils étaient quand même de plus en plus réceptifs. J'ai même remarqué qu'il y en avait qui étaient beaucoup plus réceptifs que d'autres et qui maintenant aussi sont en équipe première, qui ont signé pro. Donc, j'étais super contente par rapport à ça. Et puis, ce que j'essaye aussi toujours de faire en conférence, c'est de m'intéresser directement un par un à chacun des joueurs pour voir justement où il en est dans son alimentation, qu'est-ce qu'il fait au quotidien. Et je pense que ça les a vraiment sensibilisés. Alors, je ne sais pas maintenant où ils en sont tous. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment un point positif à aborder avec eux. Et justement, après, moi, je suis là pour leur donner les informations nécessaires, à eux de voir ce qu'ils font avec.
Alors, à l'Impact de Montréal, l'une de tes missions était de sensibiliser les joueurs et leur entourage aux bienfaits d'une bonne nutrition. Alors, l'entourage, on parle essentiellement de la famille, bien sûr. Dialoguer avec l'entourage du joueur, de l'athlète, c'est capital pour toi, parce qu'en fait, le faire comprendre à l'athlète, c'est une chose, mais il évolue aussi dans un environnement. Et s'il est mal entraîné dans l'environnement, entre guillemets, si on lui... Par exemple, pour des jeunes hein, qui vivent encore chez leurs parents, si on leur fait des plats qui sont pas bien préparés ou mal conseillés, en tout cas d'un point de vue de l'apport nutritionnel, ça aura des conséquences sur l'athlète.
C'est vrai que c'est une notion aussi qui est fondamentale, hein, l'environnement des joueurs. Quand j'étais à Montréal, j'ai donc fait beaucoup de conférences aussi aux proches des joueurs, tout simplement pour que... la famille et l'environnement soient dans le même chemin que le joueur, parce que c'est déterminant en fait. L'influence qu'a cet environnement sur le joueur est déterminante, que ce soit d'ailleurs les parents, la famille, l'épouse, les enfants, mais aussi l'environnement qu'il a au club, le staff, les entraîneurs, les prépas, préparateur mental, etc. Et c'est vrai que tout le monde doit être dans le même chemin pour une évolution positive du sportif. Et donc, même par exemple, quand je fais des consultations aux mineurs, j'exige toujours qu'il y ait un parent au moins avec dans la consultation, parce que évidemment, quand le sportif vit encore par exemple chez ses parents, il est essentiel, comme ça va être sûrement ses parents qui vont cuisiner, il est essentiel qu'ils adaptent aussi leur achat et leur alimentation à la vie du sportif. Après, généralement, ce qui est bien, c'est que quand je donne des conseils pour les sportifs, toute la famille bénéficie aussi de conseils et ça améliore aussi la qualité nutritionnelle qui est présente dans la famille.
Alors, dans la nutrition, on pense immédiatement à ce qu'on mange, évidemment. Pas forcément à la bonne hydratation, qui a une influence aussi très importante sur la performance et la récupération. Quelles sont les boissons du coup que les sportifs peuvent consommer sans problème au quotidien? Il ne doit pas y en avoir beaucoup, j'imagine.
Alors c'est vrai que malheureusement on a sur le marché énormément de boissons. Il y a aussi énormément de boissons pour sportifs qui sont faites. Alors il y en a de très bien, mais bon, il y en a où c'est un petit peu trop chimique. Et moi c'est vrai que je suis pro alimentation naturelle et brute un maximum. Mais c'est vrai que l'hydratation a une importance capitale. Nous ne sommes faits d'eau quand même, hein, 70%. Et puis les sportifs ont un besoin accru en eau de par l'utilisation hydrique et les pertes qu'ils font preuve au quotidien. Alors c'est vrai que la meilleure boisson qui restera toujours au-dessus de tout, ça reste l'eau, bien évidemment. Ça, on ne peut pas... On ne peut pas mentir à ce sujet. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir des boissons qui peuvent être adaptées. Alors, des boissons des sportifs qui sont bien faites. Les sportifs peuvent également faire leur boisson de l'effort chez eux. Et puis, on peut aussi consommer des boissons à partir d'aliments frais, comme des fruits frais, donc des jus pressés. Utiliser aussi des aromates dans son hydratation, tout ce qui est menthe, tout ce qui est tous les aromates, persil, tout ça, enfin tout est possible, mais c'est vrai que ce qu'il faut essayer de limiter un maximum, c'est les boissons industrielles contenant beaucoup plus de sucre que de reste, et ça porte atteinte malheureusement à la santé et à la performance du sportif.
Alors, on parlait de plaisir tout à l'heure avec la fameuse pizza d'après-match. Les neurosciences ont mis en évidence quand même plusieurs mécanismes qui relient le plaisir et l'alimentation. Comment tu réussis à faire passer ton travail et donc tes recommandations auprès des joueurs quand, en fait, tout simplement, c'est vu comme une contrainte et une privation? clairement, quand tu dis à quelqu'un écoute, tu peux pas manger ce que tu veux, même les trucs que tu adores et qui seront forcément un peu plus gras parce que clairement, hein, les trucs qu'on préfère, c'est pas des brocolis à la vapeur. Enfin, c'est très très rare. Comment tu réussis à leur faire comprendre que cette notion de plaisir dans l'alimentation, ils l'auront peut-être pas au quotidien parce que c'est très important de suivre des conseils nutritionnels assez stricts.
J'essaye vraiment de bien leur expliquer que même s'ils pensent que c'est une contrainte, comme dit précédemment, c'est vrai que s'ils décident de travailler avec leur corps et d'atteindre de hautes performances en prévenant les blessures, en augmentant leur vitalité, etc. au quotidien. Ils sont obligés de faire attention à leur alimentation. Et puis c'est vrai que l'alimentation est le carburant du corps, comme l'essence pourrait être le carburant d'une voiture. Donc j'essaye vraiment aussi de prendre des exemples concrets avec la vie de tous les jours et en essayant aussi de m'intéresser un maximum à ce qu'ils font. Et puis je leur explique aussi, je prends des exemples par rapport aux sportifs professionnels qui sont déjà sur le terrain que l'on connaît, qui font très attention à leur alimentation et à leur hygiène de vie et qui ont aujourd'hui des performances optimales et incroyables. S'ils veulent réellement faire la différence, ils ne doivent rien laisser au hasard et aucun domaine qui leur est favorable doit être de côté. Et l'alimentation est vraiment un domaine très important pour eux. Donc, ce serait bête aujourd'hui de laisser ça de côté. Après, bien évidemment, la notion de plaisir, comme tu as dit, est capitale. C'est-à-dire que pour moi, on ne peut pas réellement faire quelque chose sur le long terme et au quotidien sans prendre de plaisir. Donc c'est vrai qu'il est très important qu'il retrouve du plaisir et on essaye d'en trouver un maximum. Alors c'est vrai que je ne leur dis pas de manger, comme je leur dis, je ne vais pas vous dire de manger une feuille de salade matin, midi et soir ou des brocolis à la vapeur à chaque repas. Il faut apporter des notions de plaisir que l'on peut retrouver dans plein de choses saines. Mais il est quand même très important de garder une certaine rigueur quand on est un sportif professionnel.
Alors quand ils sont engagés dans une saison, les joueurs, le problème c'est qu'ils doivent faire très attention à leur régime alimentaire. Quand ils sont en vacances, ils doivent encore plus faire attention pour éviter la prise de poids et ils doivent en plus suivre quand même des programmes physiques pour établis par le club, les entraîneurs, les préparateurs, pour garder une condition physique quand même, on va pas dire optimale, mais intéressante, acceptable. Finalement, est-ce qu'ils ont le droit à l'excès de temps en temps? Et si oui, selon toi, quel est le moment, on va pas dire le meilleur moment, mais en tout cas le moins préjudiciable pour sa performance et pour sa vie de tous les jours? Est-ce que c'est pendant la saison, quand il y a un petit break d'une semaine, enfin surtout quand on n'a pas de match par semaine par exemple? Est-ce que c'est pendant les vacances? Quand est-ce qu'il peut avoir un petit excès?
Alors, pour moi, bien sûr qu'on peut avoir des excès et c'est même important d'en avoir parce qu'on est humain avant tout, hein, bien évidemment. Ils sont humains même s'ils sont sportifs. Alors, les meilleurs moments, je vais dire, c'est déjà loin des efforts très intenses. Donc, par exemple, c'est vrai que un jour de match, je dirais jamais à mes sportifs de se faire plaisir directement avant, la veille ou même en repas de récupération. Pour moi, il est essentiel de continuer à faire attention. Par contre, si par exemple le lendemain on est un jour off et que on reprend encore une fois le lendemain avec un petit entraînement de faible intensité, là il est possible de se faire plaisir. Quand on est en vacances, pareil. Alors évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi pendant toute l'intersaison parce que sinon, on revient avec un pourcentage de masse grasse qui a explosé, bien évidemment. Mais il est quand même essentiel de pouvoir se faire plaisir aussi à ce moment-là. Je pense réellement en fait que un sportif doit avoir conscience de plusieurs choses et le fait d'avoir une bonne alimentation au quotidien doit être une prise de conscience pour lui que il doit trouver plaisir à manger au quotidien et puis bien évidemment se lâcher quand il est possible, mais que je dis n'importe quoi, mais par exemple s'il a 6 mois de break, il va pas pouvoir pendant 6 mois se ruer sur tout et n'importe quoi, ce serait bête et ce serait dans l'inconscience finalement.
Alors le sport de manière générale, et donc le foot, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, il est souvent montré du doigt pour son impact écologique important. Je vais te prendre deux exemples rapides qui sont hors nutrition, et après on va revenir à la nutrition. Le premier exemple, c'est les voyages en avion, pour de courtes distances parfois. Parfois on voit des joueurs prendre des avions privés pour 200 km, un déplacement de 200 km, ce qui fait qu'ils ont un temps de vol parfois totalement absurde de 30 minutes, par exemple. On a aussi la très grande consommation et le renouvellement de tout ce qui est équipement, matériel, les maillots, etc., qui sont à peine usés et qui sont tout de suite changés, jetés, etc. Donc tout ça a un impact écologique très fort. Et la nutrition, a aussi un impact environnemental important. J'ai vu dans une de tes interviews que tu disais que l'idéal pour l'apport en protéines des sportifs, on sait que c'est un élément très important dans la nutrition des sportifs, c'était d'approcher en gros les 50% de protéines d'origine végétale et 50% oui. d'origine animale. On a vu des études depuis qui montrent que l'élevage intensif d'animaux a un fort impact écologique. Même chose, par exemple, avec d'autres aliments qui sont pas d'origine animale, par exemple, comme l'avocat, qui est riche en vitamines, en minéraux, qui est donc très bon pour les sportifs, mais dont la culture nécessite 1000 litres d'eau pour 1 kilo de récolte, ce qui est absolument énorme. Est-ce que c'est un sujet pour toi, déjà? Alors, tu me parlais tout à l'heure de l'importance que tu attachais au fait de manger, par exemple, bio, naturel, le moins transformé possible. Oui. Est-ce que l'impact écologique, c'est un sujet pour toi dans ton travail au quotidien? Et si oui, comment tu réussis à concilier la recommandation d'ingrédients qui sont finalement excellents d'un point de vue nutritionnel, mais qui peuvent avoir un très fort impact écologique?
C'est une notion vraiment très importante parce qu'aujourd'hui, on est en tant que citoyen du monde responsable aussi de notre impact écologique et que les joueurs professionnels ont un impact sur le grand public grâce à leur influence. Donc c'est vrai que c'est très positif s'ils peuvent aussi montrer le chemin et montrer l'exemple. Alors, concernant, c'est vrai que l'alimentation, alors je reprends le cas de l'avocat qui est un excellent aliment. De façon générale, mais encore plus pour le sportif qui a des besoins accrus. Et là, même si il est très intéressant d'en manger, je ne conseille pas d'en manger au quotidien. Il faut que ça reste occasionnel. C'est le cas aussi pour l'importance des protéines animales et protéines végétales. Tu parles de 1000 litres pour un avocat, mais on est à 15 000 litres d'eau pour un kilo de viande de bœuf, par ouais. exemple. C'est absolument énorme. Alors, ce qui est pour moi, une notion très importante, c'est que ce soit par rapport à l'alimentation, mais aussi, je pense, dans la vie générale, il est important de ne pas tomber dans les extrêmes, c'est-à-dire de ne pas être soit tout blanc ou tout noir, mais de pouvoir garder une certaine conscience et un équilibre en se disant que, par exemple, on peut manger de la viande sans problème, mais en privilégiant les viandes de qualité. L'avocat, c'est bien, mais si on en mange de façon occasionnelle et qu'on trouve des minéraux, des vitamines et des acides gras intéressants dans d'autres aliments qui sont, par exemple, locaux. Et ça, c'est vrai qu'un des points fondamentaux pour moi de l'alimentation et l'écologie, c'est avoir une alimentation un maximum locale et de saison. Alors c'est vrai que manger local et de saison, c'est tout aussi bénéfique pour les personnes que pour l'environnement. Tout d'abord, on parle par exemple pour la qualité des aliments qui sont consommés, qui sont cueillis à maturité et qui n'ont pas par exemple mûri pendant le voyage, parce que n'oublions pas que les aliments qui sont cueillis à l'autre bout de la planète, ils connaissent une maturité uniquement pendant le voyage qui dure plusieurs jours. Donc, ils ont une qualité nutritionnelle moindre par rapport à ceux qui peuvent être directement cueillis localement. Donc, on a une meilleure qualité des aliments, meilleure composante nutritionnelle, mais aussi, ça nous permet d'avoir une terre qui est respectée, c'est-à-dire d'avoir des aliments cultivés en terre et non sous serre, chauffés, avec des processus en veux-tu, en voilà. Ça nous permet aussi d'enrichir économiquement les petits producteurs, de faire baisser la production de CO2. C'est vraiment on va dire une conscience générale qu'il faut essayer d'adopter par rapport à ça.
Et tout ça, c'est un discours que tu as avec les athlètes, par exemple, ou avec leur famille?
Alors, c'est vrai que je t'avoue, moi, j'essaye toujours d'aller étape par étape. C'est-à-dire que, déjà, il faut que l'athlète ait confiance en moi. Ensuite, quand il a confiance en moi, je lui parle de l'importance de l'alimentation. Donc ça, c'est déjà un gros travail à faire pour que l'athlète puisse réellement l'appliquer au quotidien et le comprendre. Et ensuite, c'est vrai que ça passe aussi obligatoirement par l'alimentation locale et de saison. Donc, ce que j'essaye de dire déjà à mes athlètes, c'est il y en a qui me disent qu'ils essayent de, je leur dis par exemple de trouver des petits producteurs pas loin de chez eux, Il y en a qui me répondent que c'est difficile, mais quand je leur dis que finalement ils veulent avoir des baskets sur mesure avec tel type de design, etc., là c'est pas difficile, mais pour trouver des aliments à moins de 5 km, là ça, tu vois, tout est une question de priorité et
Bien
tout est
sûr.
vraiment faisable. Donc oui, bien sûr, je leur dis d'avoir une alimentation la plus locale possible, plus de saison possible aussi, hein, ça sert à rien de manger des fraises au mois de décembre, et puis la plus naturelle, parce que de toute façon, c'est l'alimentation la plus naturelle qui est la plus bénéfique pour les sportifs. Ça va permettre aussi de diminuer les emballages, etc. Bon, tout ça, c'est vraiment on va dire que c'est en ayant une prise en charge et un suivi nutritionnel vraiment au quotidien que j'arrive à leur apporter ce genre d'informations. Parce que c'est vrai que sinon, on est. Bon, il faut déjà leur faire prendre conscience que l'alimentation, c'est important, quoi.
Alors sur l'impact écologique de l'alimentation, est-ce que tu as eu l'occasion de voir The Game Changers sur Netflix?
Oui, je l'ai vu, oui.
Voilà, alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'explique rapidement, c'est un documentaire sur la pratique du sport par des sportifs ayant choisi de passer à un régime végétalien avec évidemment le témoignage de sportifs, de professionnels de la santé, de chercheurs, etc. Et on sait par exemple que Novak Djokovic est vegan, que des footballeurs le sont également. Il y a une vraie prise de conscience aussi à ce niveau-là de la part des sportifs. Est-ce que tu as déjà travaillé avec des sportifs qui ont fait ce choix de ne plus consommer de produits issus de l'exploitation animale?
Alors oui, j'ai déjà eu cette expérience. Bon, c'était des sportifs qui essayaient d'améliorer leur alimentation pour leur performance. Donc c'était pas. Je pense que ce qui est important de prendre en compte, c'est aussi pourquoi on fait ça. Si c'est uniquement pour les performances ou si c'est réellement quelque chose auquel on tient par rapport aux animaux, etc. Après, comme je le disais, c'est vrai que je pense qu'il est très important de ne pas tomber dans les extrêmes. Le reportage Game Changers est très bien, dans le sens où il est bien fait, etc. Mais il faut quand même faire attention parce que, au final, ce qu'ils montrent dans le documentaire, c'est que, ils ont une alimentation végétale, mais qui n'est peut-être pas forcément non plus très naturelle ou très saine. Et puis, à côté de ça, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que les végétaux ont une importance essentielle dans un régime sportif. Ils apportent des choses que les autres aliments ne peuvent pas apporter. On parle surtout de fruits, de légumes. Après, je pense que manger des steaks de mauvaise qualité à tous les repas, je suis tout à fait contre. Mais je suis aussi contre manger des steaks, par exemple, de soja reconstitués avec des aliments que l'on ne connaît même pas, qui viennent des laboratoires ou je ne sais quoi. Donc c'est pour ça que je dis vraiment, ce qui est très important pour moi, c'est le concept de frugalité. C'est-à-dire de manger moins, mais mieux, parce qu'on mange beaucoup trop et beaucoup trop mal. Et donc, manger moins et mieux, c'est-à-dire donc manger moins en quantité, mais avec des aliments vraiment de qualité. Donc, si on veut manger de la viande, eh ben, qu'on essaye de manger une bonne viande de qualité à tous les repas ou 3 fois par jour, ça sert à rien parce que on a quand même besoin, comme dit précédemment, des protéines végétales. Et puis voilà, sans tomber dans les extrêmes. Après, s'il y a vraiment des sportifs qui veulent devenir, par exemple, végétariens, je suis là pour les aiguiller. Mais c'est vrai que pour avoir un régime qui exclut totalement les produits animaux, je pense quand même qu'il faut avoir une sacrée connaissance des aliments pour ne pas manquer de nutriments. Et ça peut être vite, vite compliqué.
J'avais une question aussi sur ton rapport ou les conseils que tu peux avoir sur les produits hors alimentation que les sportifs peuvent prendre pour avoir une influence sur, par exemple, sur le poids. On a des brûleurs de graisse, par exemple, on a même des footballeurs qui se sont fait attraper avec ça. Comment tu vois ou même des compléments alimentaires, par exemple, tiens, pour des carences, traiter des carences ou pour améliorer la fixation de certains aliments. Comment tu gères ça? Comment tu gères ces conseils-là avec des gens qui peuvent parler, avec des athlètes qui peuvent te parler de brûleurs de graisse, de compléments alimentaires pour toujours évidemment dans la recherche de la performance.
Alors c'est vrai que c'est un sujet aussi intéressant parce qu'aujourd'hui on a dans l'industrie énormément, énormément de compléments alimentaires
C'est
sur le
devenu un
marché
business
ou
très très important d'ailleurs.
complètement. Complètement. Et c'est vrai que ben, les sportifs, évidemment, ont en plus tendance à aller vers ce genre de produits parce qu'il est bien plus facile d'avaler un complément alimentaire que de manger peut-être une assiette de légumes, ce que je peux comprendre peut-être, mais pour moi, c'est pas normal parce que je suis toujours pro-alimentation naturelle. Donc, c'est-à-dire qu'on essaye de faire un maximum avec l'alimentation naturelle en laissant les compléments alimentaires de côté. Après, comme tu parles, par exemple, pour des histoires de carence, là, c'est vrai que quand on retrouve des organismes carencés, il est intéressant d'avoir des compléments alimentaires dans son quotidien pour justement combler ces carences-là. J'ai des sportifs également qui prennent des compléments alimentaires pour certaines choses. Je pense encore une fois qu'il faut savoir faire la part des choses, c'est-à-dire ne pas tomber là-dedans en mode je veux maigrir, je veux prendre des brûleurs de graisse. Non, certainement pas. Il y a vraiment des choses à faire au niveau de son alimentation bien plus naturelle et respectueuse des besoins fondamentaux du corps pour perdre du poids plutôt qu'aller vers des produits qui n'ont pas forcément de bénéfices d'ailleurs, mais plus d'inconvénients.
Je me permets de te couper, c'est un peu une
Bien sûr.
solution de panique, ces brûleurs de graisse notamment. C'est en gros, bah, je mange un petit peu plus, je me fais un petit peu plus plaisir, mais comme derrière je vois que c'est pas bon, je sais que c'est pas bon, j'en ai conscience, bah, j'essaie de trouver quelque chose pour contrer ce que je viens de faire. Et donc il y a les fameux brûleurs de graisse, et dans le sport et dans le foot notamment, il y a un autre fléau qui est en train de beaucoup se développer, c'est des joueurs qui font un peu moins attention à leur alimentation et qui compensent beaucoup par la musculation. Notamment, et notamment la musculation du haut du corps, et qui a de très grosses conséquences sur les blessures, notamment si le corps devient déséquilibré en termes de masse musculaire, il y a des blessures qui apparaissent, et en termes de perte de vivacité aussi. Il y a 1000 exemples de joueurs qui étaient très rapides, très vifs sur les premiers appuis, par exemple, qui avaient une énergie dingue, dingue quand le corps se mettait en route, et qui vont faire beaucoup de musculation. À la fois haut et bas du corps, peu importe, et qui vont perdre toute cette tonicité. Mais c'est à la fois esthétique pour certains, c'est-à-dire en gros, bah, plus mon corps est musclé, plus il est beau, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Et d'autres, c'est aussi pour se dire, bah, je vais compenser, si je dis une bêtise, hein, si je mange un hamburger industriel, bah, je vais compenser, je vais faire une heure dans la salle de musculation du club, ou une heure chez moi avec des haltères et tout le matériel que tu peux acheter, bah, pour compenser ça. Et notamment les brûleurs de graisse, c'est aussi un peu ça. C'est en gros, bah, je fais un peu moins attention, et derrière, bah, je vais prendre un produit non naturel, entre guillemets, pour contrer ce que je viens de faire.
Bien sûr, c'est tout à fait ça. Et en fait, malheureusement, c'est vraiment pas le chemin parce que même quand on fait de la musculation, n'oublions pas que si l'alimentation est le carburant de notre corps, si on n'a pas une alimentation adéquate, on va forcément aussi créer des déséquilibres. Et c'est vrai que c'est un discours que j'ai beaucoup avec les sportifs, notamment avec les footballeurs, parce que quand j'interviens des fois, j'ai des sportifs qui me disent, ah oui, non, mais moi, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai 8% de masse grasse. Pas besoin de faire attention à mon alimentation. Mon corps est parfait. J'ai mes abdos, etc. Alors là, je leur dis non, non, pas du tout. Ça n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire que l'on peut avoir aujourd'hui, bien sûr, 8% de masse graisseuse et un poids tout à fait convenable, mais ne pas avoir une alimentation adéquate et donc ne pas atteindre réellement un haut potentiel, une optimisation des performances. Parce qu'on a beau, je veux dire, il y a des personnes qui n'ont aucun problème de poids, mais ce n'est pas forcément les personnes qui seront forcément en meilleure santé. Donc ça, j'essaye aussi vraiment de bien leur expliquer que il n'y a vraiment pas de secret. Il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, si on veut être un athlète qui atteint de hautes performances au quotidien, on ne doit rien laisser au hasard, que ce soit voilà, toutes les préparations en dehors de la pratique ou pendant l'entraînement. On ne doit rien laisser au hasard. Et l'alimentation a réellement sa place dans ce processus. Et donc, ça ne sert à rien d'essayer de compenser avec des compléments alimentaires ou avec une musculation ou autre chose. On doit passer par là si on veut réellement être professionnel et le rester.
Alors, on arrive au bout de l'entretien et on, petite aparté d'actualité, entre guillemets, on sort d'une longue période de confinement en raison de l'épidémie de Covid-19. Est-ce que tu as eu plus de demandes de sportifs, de tes sportifs ou d'autres sportifs qui devaient évidemment surveiller étroitement leur alimentation? Quels conseils tu leur donnais? Parce que, en l'absence de véritables dépenses énergétiques, ou en tout cas une dépense bien inférieure à ce qu'ils font lorsqu'ils sont en période de compétition, donc d'entraînement et de match, confinés en plus chez soi avec des restrictions très importantes pour sortir, pour faire du sport, etc. Est-ce que tu as eu plus de demandes de la part de tes athlètes ou de nouveaux athlètes, entre guillemets, et quels conseils tu leur donnais pour bien gérer cette étape qui a quand même duré 2 mois et demi?
Alors, c'est vrai que ça a été une situation inédite pour tous. Et on va dire que tout au début, j'avais un petit peu l'impression que mes sportifs se retrouvaient en vacances. Ils étaient un petit peu tous autant perdus que contents à l'idée de faire un petit break. Donc, c'est vrai que pour certains, ça a été compliqué parce que j'ai des sportifs qui, par exemple, ne cuisinent pas. Soit on cuisine pour eux quelqu'un d'extérieur, ou j'ai des sportifs aussi qui se retrouvent avec leurs enfants, etc., sans avoir des entraînements au quotidien. Donc, tout est un petit peu, on va dire, chamboulé. Alors, au début du confinement, je t'avoue que les sportifs n'étaient pas vraiment demandeurs de conseils, bien que pour moi, il était quand même essentiel de garder une bonne alimentation, surtout pendant cette période. Et puis, quelques semaines ont passé et là, j'ai eu de plus en plus de fortes demandes, que ce soit de mes sportifs, mais d'autres sportifs, mais aussi d'autres personnes, des individus qui voulaient faire attention aussi à leur poids, etc. Et là, c'est vrai que j'ai eu énormément de demandes parce que, comme tu l'as dit, le fait d'avoir une dépense énergétique inférieure à la normale dit forcément de faire attention à son alimentation, parce que si on continue à manger comme si on était à l'entraînement normal avec une dépense énergétique importante, le corps va forcément prendre du poids et prendre en gras. Donc, ce qui était très important, c'est vraiment d'adapter son alimentation par rapport à ça, en essayant, même si on essayait aussi de trouver du plaisir dans l'alimentation. Donc, il fallait trouver du plaisir sans réellement faire trop d'excès au quotidien. Et puis, je conseillais quand même toutes les personnes de pouvoir bouger un maximum, que ce soit même faire des exercices à la maison, mais vraiment d'essayer d'entretenir vraiment cette dépense énergétique pour ne pas avoir une trop grande différence.
Alors, pour boucler cet épisode, Gladys, la dernière question est toujours identique pour tous mes invités. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines? Est-ce que tu as un nom particulier à me soumettre? Ou plus simplement, puisque c'est un podcast qui s'intéresse à tous les métiers du football, un métier que tu aimerais découvrir, redécouvrir, approfondir? Est-ce que tu as des suggestions à me soumettre?
Alors, je n'ai pas de nom particulier, mais c'est vrai que je pense que la préparation mentale est un sujet que l'on aborde de plus en plus, mais encore pas assez, un peu comme la nutrition. Et c'est un sujet que j'aimerais vraiment aussi beaucoup découvrir. Donc oui, la préparation mentale est un sujet que j'aimerais bien entendre.
Eh bien, petit indice, il va arriver très peu de temps après toi, du coup. On va passer très rapidement de la nutrition à la préparation mentale, à l'aspect psychologique dans la gestion du footballeur. Merci. Super. Gladys Diblin, pour ta disponibilité et pour la qualité de cet entretien. Et on te dit donc bon courage pour tes conseils, puisque les saisons vont bientôt reprendre, entre guillemets, le foot va reprendre ses droits. Et donc, j'imagine que tu auras beaucoup de travail avec les sportifs qui sortent d'un confinement, et certains avec quelques kilos supplémentaires, quelques kilos superflus. Merci Gladys.
C'est exact. Merci à toi, Johan. Et puis, bon courage à toi aussi.
Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est en effet une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.